Et Chewbacca est parmi nous. Vous nous emmenez où,
Non, Chewbacca? Mais c'est la fête, là. Ouais. Moi, j'entends tout ça, c'est super. Alors, je vais vous dire un peu aussi que parfois, la musique, c'est de la géopolitique. Alors, il y a maintenant fort longtemps, je faisais pas encore 130 kilos, lorsque les musiciens du métro avaient encore pour nom à Paris les buskers, parce que ça faisait classe, c'est-à-dire musicien ambulant en anglais. Votre serviteur les accompagnait, mais pas à la guitare ni avec aucun instrument, parce que je sais pas trop en jouer à part de la scie. Mais j'avais un boulot super, je protégeais la caisse et faisais en sorte que le chapeau se remplisse, quoi. Si vous donniez un chewing-gum et un clou, je la prenais mal en général, quoi. Donc le soir, il y avait deux troquets du côté de Saint-Michel qui accueillaient ces icônes du métro. On y allait, les poches remplies de pièces jaunes, et on allait échanger tout ça avec le patron du bar. On prenait un coup en passant, mais c'était quand même notre banque. Et là, à part les habitués du souterrain qui avaient leur place réservée, leur station attitrée, leurs horaires privilégiés, il y avait régulièrement les nouveaux venus à qui il fallait bien faire une place parce qu'ils étaient pauvres comme un chien plein de puces. Et dans les années 80, chaque conflit nous envoyait leur lot de malheureux, le Pérou, le Nicaragua, le Guatemala, et ça causait Spanish à mort, ce qui n'était pas mon cas. Et il fallait connaître ces classiques de chansons révolutionnaires et des Andes à la flûte et tout ça. Et à part l'Amérique latine, bien sûr, il y avait la troisième guerre du Liban qui commençait. Et les musiciens du métro à cette époque, c'était un peu la carte des conflits, ramenée à une échelle humaine. Et certains Libanais étaient là depuis un petit moment, puisqu'il y a eu une première vague dans les années 70. Ils sont arrivés au milieu des années 70. Et parmi eux, il y a un musicien qui s'appelle Issam Adjali, qui plus tard aura un groupe vraiment culte au Liban, les Ferkat al-Ard. Mais donc, auparavant, notre bonhomme avait débarqué à Paris, fuyant le conflit libanais avec la Syrie, tiens donc. Et puis il va rester un an en exil en 77. Et au milieu de sa galère, le seul moyen de se payer un truc chaud ou une nuit dans un lit, c'était d'aller faire le busker dans le métro, faire la manche, quoi. Mais son envie d'enregistrer des disques était tenace. Et un jour, il a réussi à trouver assez d'argent pour se payer un seul jour de studio où il devait enregistrer tout un album. Donc il se ramène avec les musiciens français, iraniens, algériens et libanais. Je vous demande pas où il les a trouvés, c'est roule ma poule, quoi. Et un jour, un disque. À la fin de l'année 77, il retourne au Liban, mais les labels en temps de guerre, il n'y en a pas, et on a beaucoup de mal à fabriquer les disques, ou tout simplement à exister. Donc, Issam Adjali va donc copier son disque sur cassette audio. Il va en faire une centaine qu'il va distribuer autour de lui, et il n'en conservera qu'une seule, qui va servir à l'édition de ce disque caché pendant plus de 40 ans. Alors vous me direz, mais qui a bien voulu remettre la main sur ces enregistrements? Eh ben, on le doit à un label allemand situé à Berlin, qui s'appelle Habibifunk, et qui s'est donné pour mission, en fait, de rendre ses petits trésors oublié public. Alors le mec s'appelle Janis Swert, c'est le patron du label, il est aussi DJ et puis il se déplace, il fait un peu le détective. Et des fois, comme ça, quand on recherche les musiciens, on entend parler des gens par saut de puce. Et il y a 3 ans, il est à Beyrouth et puis il tombe sur un blog où il y a une toute petite interview de ce garçon où il apprend que, quand même, Issam Adjali tient une boutique rue Mas Elias à Beyrouth. Alors là, il se dit, c'est le Graal, je vais y arriver, etc. quoi. Il est franchement content. Tout va bien jusqu'à temps qu'il arrive au début de la rue, qui fait quand même une borne, 1 kilomètre, et des boutiques, il y en a un peu tous les 3 mètres. Donc là, faut de la patience, faut causer, boire le thé, et puis finalement, il rencontre un type qui connaît le type. Et moi, j'aurais adoré voir la tête d'Issam Adjali quand il l'a vu débarquer au milieu de sa boutique de bijoux népalais, l'allemand. Voilà, le berlinois qui en connaissait plus sur lui que n'importe quelle fiche Wikipédia, vu qu'il n'y en a pas sur le chanteur. Et la musique, c'est aussi ses histoires, et ça, c'est vraiment très très chouette. Donc cet album a été enregistré il y a 40 ans, a jamais été réellement publié. Il a un nom hyper compliqué, surtout avec mon arabophone, mais je vais quand même essayer de vous le faire parce que je me suis fait aider. Ça s'appelle Moussalet Illa Jaked El Arn. C'est un peu groovy. Ça ressemble un peu à une bande originale d'un film de l'époque. Il y a du jazz, du folk. Le ton est mélancolique. Maintenant, vous savez pourquoi. Et c'est beau comme ce titre qui s'appelle Cops.
الخوار ولتدخل الحنان sans prime. Fisati l'udur, hammamatak iddamima. Ya talat al-buka, ya madinat al-jarima.
Baka, pouvez nous rappeler qui on
Alors,
écoute.
Il s'appelle Issam Adjali et le titre qu'on vient d'écouter c'est Cops et le label, eh ben vous l'aurez tout de suite reconnu puisque c'est Habibi Funk. C'est
ah ben bah, j'ai reconnu tout de suite.
Bah, bien sûr. Hein, vous saviez ça.